Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec l'entre-deux-tours de la critique. Vont voter ce soir Sophie Avon de Sud-Ouest, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, pour ou contre les films Gold, Life, Django, Sous le même toit, À mon âge, je me cache encore pour fumer, Après la tempête et Aurore. Dans le courrier de la semaine, un courrier d'ailleurs très féminin et autour des femmes, à propos de la confession de Nicolas Boukrieff, Adrien Tanzol en veut à Alain Rioux de s'être montré si dur avec Romain Duris, peut-être parce que je suis moi-même barbu. Le problème de la confession me semble plutôt être Marine Wacht. Je suis, nous dit Adrien Tanzol, je suis ostréiculteur dans le bassin de Marraine et les huîtres que j'élève ont plus de charisme qu'elles. Au contraire, Marine C a été frappée de vous entendre au masque parler constamment de la beauté de Marine Wacht et si peu de son jeu. Romain Duris n'a pas eu droit d'entendre à quel point il était beau et à quel point cela apporte quelque chose au film. Bref, un peu d'égalité de traitement ne ferait pas de mal. Margot Blondel de Paris a été choquée par la violence de Daniel Lehman à propos de la représentation du corps féminin dans United States of Love. Les corps filmés par Thomas Wasilewski n'entrent peut-être pas dans les canons esthétiques communs. Ils ont des poils, des rides, trop ou trop peu de graisse. Et c'est tant mieux, nous dit Margot. J'ai 20 ans et ces représentations de corps féminins vrais et divers m'apparaissent comme un espoir vers une remise en jeu des normes esthétiques imposées aux femmes depuis bien trop longtemps. Femmes encore avec Delphine qui se définit comme une féministe de 34 ans qui habite La Roche-sur-Yon et qui nous écrit « Chère Sophie Avon, quelle déception à l'écoute de votre critique d'orpheline. Comment avez-vous pu passer à côté de l'essence de ce film? Comment osez dire qu'Arnaud Despalières a pris plaisir à filmer des adolescentes? Ce film, bien au contraire, prône la libération féminine. Merci à Pierre Murat d'avoir défendu ce film qui m'a poussé encore et toujours à continuer le combat. » À propos de « Je danserai si je veux » de Messaloun Hamoud, de Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence, nous dit qu'il a vu un film dans lequel la réalisatrice, voulant se montrer au sommet de la branchitude, se plaît à filmer cette prétendue joie de vivre libre avec beaucoup de complaisance, calquant l'esthétique de son cinéma sur ce qui se fait à New York. Et Adrien Gosset-Bernheim, qui habite Israël, nous précise d'ailleurs que les trois héroïnes ne sont pas palestiniennes mais arabes. Israéliennes, et elles appartiennent donc à la minorité qui représente 20% de la population du pays. Si elles étaient palestiniennes au sens propre, elles n'auraient pas le droit de résider à Tel Aviv. Et j'ai trouvé, comme vos chroniqueurs, que les personnages étaient un peu stéréotypés, ce qui explique qu'il a été assez tièdement reçu par les Arabes israéliens et applaudi par les Juifs israéliens. Frédéric Pollic d'Audin-le-Tiche nous dit que « Je danserai si je veux », United States of Love, décidément c'est la semaine, et « Je me cache encore pour fumer » dont on parle ce soir, porte haut et fort le combat féministe, plus que jamais la femme et l'avenir de l'homme, ici en Occident aussi bien, nous dit Frédéric Pollic, qu'en Islam. Et pour finir, Denis Cadoret de Douai remercie Xavier, Michel Simon et Sophie Avon de ne pas être tombés dans l'attrape gogo que constitue, une fois de plus, le dernier film de Shyamalan, Split. Ce cinéaste est au thriller, ce qu'est Lars von Trier au film d'auteur, un habile metteur en image de projets prétentieux, bêtement manipulateur et auto-centré. Dans mon souvenir, tu l'avais bien aimé, toi.
Beaucoup, oui. Beaucoup.
Donc, tu n'es pas remercié par Denis Cadoret. On commence avec Life, origine inconnue du Suédois Daniel Espinosa, avec Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, un film qui embarque 6 membres d'équipage à bord d'une station spatiale. Ces Thomas Pesquet hollywoodiens vont découvrir qu'il existe une vie extraterrestre sur Mars et décident de rapporter sur la Terre un échantillon microscopique qui devient une sorte d'alien à tentacules, prénommé Calvin ou Calvin, et dont la particularité est de grandir à mesure qu'il bouffe de l'intérieur, c'est important. Les membres de l'équipage, 1h44, absolument rien de neuf. Pierre ne l'a pas vu. Oui, je ne sais pas si tu as eu tort. Jean-Marc ?
Oui, je l'ai vu, j'ai bien aimé, figure-toi. Ouais, déjà, c'était assez étonnant parce que Ridley Scott lui-même a remis la main à la pâte et prépare un nouvel alien, enfin qui va sortir très très bientôt. Et donc c'est assez amusant de voir comme ça Hollywood lui faire un enfant dans le dos et proposer une autre reformulation d'Alien. Et moi je trouve le film très très plaisant. Il y a deux idées formales assez fortes. D'une part, c'est que le film est totalement en apesanteur, comme Gravity.
C'est Gravity, oui.
Mais Gravity, je crois que c'était un film qui, malgré l'apesanteur à laquelle étaient livrés les personnages, était assez pesant. Alors que là, c'est un film qui est presque dédramatisé, c'est-à-dire que ça fait assez peu peur, mais c'est une sorte de ballet très formel, extrêmement plaisant à voir, où c'est presque vide dramatiquement, mais c'est une sorte de son et lumière extrêmement
mais
élégant.
Mais ça apporte quoi ? Je ne comprends pas.
Et moi, je trouve que malgré tout, il y a une vraie innovation par rapport à Alien. C'est la forme qu'a ce monstre, qui n'est pas du tout une forme de prédateur animal, organique, comme dans Alien, mais qui est une forme végétale, presque abstraite, qui est un pur effet spécial numérique. Et on voit cette sorte de fleur luminescente qui est comme un exercice de démonstration de ce que peuvent aujourd'hui les effets spéciaux numériques, dévorer ce qui reste d'humain dans le cinéma spectaculaire hollywoodien, c'est-à-dire un à un, cette forme végétale informatique va dévorer tous les acteurs du film.
Ils ont très faim, c'est un ballet très plaisant, très amusant, très réjouissant formellement.
Et voilà, bon. C'est à la fois modeste comme une série B, mais très agréable à voir.
Sophie ?
Ah, moi, j'adore le film. Je le trouve vraiment non seulement plaisant, mais en plus, je trouve qu'il est d'une efficacité, d'une cruauté terrible. Parce que finalement, la morale de l'histoire, elle est terrible, elle est pessimiste, elle est noire. C'est-à-dire, la vie, c'est la mort de l'autre.
Ah oui, c'est un scoop, tiens.
Non, mais il n'y a pas que ça. Il dit aussi que l'humanité, finalement, elle ne vaut pas la peine d'être sauvée parce que dans le meilleur des cas, elle est bêtement bienveillante et naïve. Et dans le pire des cas, elle est arrogante et elle se croit supérieure. Donc, c'est même pas. Donc, vraiment, la morale de l'histoire, elle est terriblement pessimiste et même violente. Et c'est traité, tout ça est traité, infuse un film d'une douceur extraordinaire. C'est-à-dire que dès le départ, la naissance de Calvin, parce qu'il s'appelle Calvin, hein, la créature s'appelle Calvin, tu l'as dit, oui, effectivement, c'est traité vraiment comme un événement heureux, quoi. Ils sont tous dans l'euphorie, une espèce, en effet, il y a une apesanteur, une sorte de ballet comme ça, mais ils sont dans la joie. Ils essaient de caresser cette petite bête, cette bestiole. Et puis quand ils prennent conscience petit à petit, comme ça, que la bête se transforme, enfin, la créature se transforme.
C'est un chihuahua à tentacules, en fait.
Non, mais ce qui est génial, c'est que ça reste dans la douceur. C'est-à-dire que même le combat, il est dans la douceur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la comptine qu'ils entendaient enfant, quand ils devaient dire au revoir à tous les objets avant d'aller se coucher. Adieu les étoiles, adieu le réveil, adieu, etc. Et qui prenait congé comme ça de la journée pour aller se coucher. Et tout à coup, eh ben, il réalise à un moment donné, au moment où ils vont tous mourir, ou en tout cas, il y a de fortes probabilités pour qu'ils y passent tous, ben, qu'il y a une espèce de consentement à la mort à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils y vont.
Là, t'es quand même en train de raconter toute la fin du film.
Non, parce que j'ai dit, au moment où ils imaginent.
Tu veux dire qu'ils allaient tous crever.
Au moment où ils se voient dans la possibilité, en effet, d'être les uns après les autres, de devoir prendre congé de la vie. Bon, je raconte rien. Et puis de toute façon, on se doute bien qu'il va y avoir.
On comprend assez vite que c'est la dramaturgie du film.
C'est
pas bien de me copier.
Non, mais je ne dis pas la fin. Ils sont en situation simplement de prendre congé de la vie. Bon, et je trouve que c'est filmé. C'est comme des enfants. Ils sont comme des enfants dans une sorte de bain amniotique, en effet extrêmement flottant, extrêmement doux. Et la conjonction de cette douceur et de cette violence à la fin, mais qui infuse le film, parce que la morale est violente, je trouve que c'est d'une efficacité redoutable. Et c'est mélancolique en plus.
Xavier, tu aimerais que je vienne à ta rescousse ? Eh bien non, je vais soutenir mes petits camarades, Jean-Marc et Sophie. Merci. Moi, j'ai pris un vrai plaisir. Alors oui, c'est opportuniste, on a reconnu Alien, on a reconnu Gravity, sauf que, je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, c'est un ballet, c'est un space opéra, ce que n'avait pas du tout cherché à faire Ridley Scott dans son premier, qui est un film plus horrifique, qui travaille sur le hors-champ, sur l'obscurité, sur la bête qui surgit. Là, l'espèce de tentacule, elle est constamment à l'écran, elle cherche à rentrer dans le cadre incessamment, et ça donne un suspense qui est assez pertinent, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à l'évincer, il faut absolument que tout soit verrouillé, elle parvient à rentrer encore,
et c'est déchirant,
souffle de vie qui est ce souffle de mort, effectivement. Il est d'une ambiguïté. Le plan d'ouverture en plan séquence, certes, il n'est pas nouveau, mais il est très beau. C'est un space opéra, c'est un vrai plaisir d'apesanteur. Il joue avec les codes, soit au premier, soit au deuxième degré. C'est-à-dire qu'une fois qu'une des vedettes du film a clamsé en premier, ce qui ne se fait jamais normalement, vu le chèque qu'on leur donne, ils ont la gentillesse de rester jusqu'au bout. Là, après, on a le noir, le japonais qui est, en plus, dont la femme vient d'avoir un enfant. On a envie de lui dire, dans les films d'horreur, dis jamais bonjour à ton bébé ou à ta femme, tu vas y passer. Bah, il y passe, hein, évidemment, ça, c'est quand même un vieux classique. Donc, à la fois, c'est la manière de jouer avec les codes, et puis, c'est la beauté du geste, effectivement. Ouais, c'est gratuit, mais c'est extrêmement agréable.
Eh bien, c'est donc Life, origine inconnue de Daniel Espinosa. Personne pour m'aider dans le public, je vous remercie. Gold de l'Américain, scénariste de Trafic. Stephen Gagan, un film d'aventure de 2 heures cette fois, porté par quasiment méconnaissable Matthew McConaughey dans le rôle de Kenny Wells, un homme peu chanceux en affaires qui décide de faire équipe avec un géologue qui est Michael Acosta, c'est Edgar Ramirez, pour trouver de l'or dans la jungle indonésienne près de Bornéo, un or qui va faire d'eux les stars de Wall Street. Il paraît que l'histoire est vraie. Ce qui est vrai, c'est surtout que McConaughey est, je le disais, méconnaissable, tellement à la fois il en rajoute dans le cabotinage, d'abord physiquement, hein, je sais pas, il a dû bouffer les aliens à la tentacule, à ses dents. Hein. Il en rajoute aussi un tout petit peu dans la beaufitude. J'ai le sentiment que on le dit souvent à cette tribune, mais c'est vraiment un rôle à Oscar, quoi. Enfin, qu'il a tout fait pour le décrocher. Je parle du prochain, hein. Pierre.
Ah, c'est très, très, très mauvais. C'est très mauvais. C'est épouvantable. Mais c'est épouvantable.
Enfin, épouvantable, non, mauvais.
Si, 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 c'est vraiment épouvantable. Parce qu'on voit ce que peut donner un très bon scénario comme ça sur le cynisme, sur la finance. Ça pouvait donner Scorsese, quand Scorsese s'y met, c'est très bien, ou alors dans des temps anciens, Mankiewicz. Le Mankiewicz, l'affaire Cicéron de Ève, pouvait faire un film sur le
J'adore quand tu vas, quand tu invoques Mankiewicz.
C'est un de mes auteurs.
Oui, je sais bien, sais bien.
Et alors là, on a une mise en scène absolument pataude, et surtout un acteur. Alors, il a pris 20 kilos, il a perdu des cheveux, il est Matthew McConaughey, qui a été quand même, il faut le rappeler en 30 secondes, un des plus mauvais comédiens il y a 20 ans, quand il alignait tous les navets hollywoodiens de comédie américaine.
Il a fait des bons films.
Alors, et brusquement, il y a eu une rédemption, et il a fait 3-4 films, dont un Oscar, où on a cru vraiment qu'il devenait brusquement quelqu'un de très bien. Eh ben, là, c'est une catastrophe. Il n'y a pas une réplique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire oui ou non, sans agiter les bras, sans faire des clins d'œil, sans se gratter le nez. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, à tel point que celui qu'on remarque, évidemment, c'est l'autre, son copain dont on
Ramirez.
Dira pas... Oui, Edgar Ramirez, qui ne fait, alors lui, rien. Et comme il ne fait rien, on le remarque d'autant plus. Mais ces 2 heures d'ennui, alors que le scénario...
Le sujet est intéressant.
Le sujet est formidable. Et le scénario, mis en scène, par un certain Mankiewicz, aurait été génial.
Xavier ?
Je suis même pas sûr que le scénario, malheureusement, ne soit pas la grosse partie faible du film.
La mise en scène
que tu viens effectivement de citer, qui est digne d'une dramatique radiophonique. Hein. Je veux dire, elle a autant d'étoffes.
Qu'est-ce que tu as contre les dramatiques radiophoniques ?
Non, mais il leur manque l'image. Et là, franchement, je veux dire, pour ce qu'il en fait, c'était pas la peine qu'effectivement, ils mettent des images là-dessus. Le problème du film, c'est qu'après l'horrible film sur le fondateur de McDonald's, qu'on avait vu il y a 3-4 mois, on assiste maintenant à une arrivée d'Hollywood de films visiblement pro-Trump, ou en tout cas qui ont bien travaillé l'arrivée de...
C'est
un film d'un prosélytisme absolu. Je suis désolé, il fallait pas que je dise absolu ce soir, mais c'est trop tard, je l'ai dit. D'un prosélytisme complet sur oui, on est des winners, oui, nous sommes des carnassiers, oui, nous avons le droit d'écraser, oui, nous avons le droit d'exploiter, mais tant qu'on fait de l'argent, nous sommes absous. C'est quand même un film qui promeut pendant 2 heures la gloire de l'argent, quelles que soient les manières de le faire, quelles que soient les méthodes utilisées pour s'enrichir. Il y a quand même cette scène effroyable à un moment, donc, effectivement, marre d'être exploité, de ne pas être payé. Les Indiens d'Océanie, enfin, je ne sais pas trop bien, d'Amazonie, font grève, s'arrêtent et tout, ce qui est normal, que quand même, les pauvres, ils ne sont pas payés. Et on a le pauvre Edgar Ramirez qui va dans le village plaider la cause de son patron capitaliste, qui est en train de se faire des millions de dollars sur le dos de ces braves gens, et il leur dit « Oh, mais il faut que vous venez m'aider, et tout ça. » Et alors, on a un petit papy tout chétif, parce qu'ils sont chétifs, les pauvres, qui lui montre dans sa hutte un petit garçon qui est en train de mourir de la malaria ou de je sais pas trop quoi. Hop.
La malaria à Bornéo.
Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Oui, ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Il va nous chercher une pauvre petite poche en plastique pour filtrer l'eau et hop, le petit garçon est sauvé. sauvés, et hop, les indigènes, oui, ils sont ravis de revenir se faire exploiter sur le camp du
mais Edgar Ramirez est vraiment le personnage le plus important.
Mais nous sommes d'accord, mais le film est promu pendant 2 heures, quand même, y compris dans la toute dernière image, quand même, ce droit que je n'ai pas dit.
Il n'y a pas de dernière image.
Qui était en plus le moment où, à mon avis, le film devenait
c'est contagieux,
intéressant.
Là.
C'est-à-dire que la vraie histoire, il fallait la raconter à partir de là, qui est une pirouette finale qui donne et qui, encore une fois, absout le personnage de tout ce qu'il a fait jusque-là. Ouais. Alors, mettons de l'argent, gagnons de l'argent, écrasez les gens. Je parle même pas du personnage féminin qui est une caricature de poule vulgaire avec un chewing-gum accroché à la mâchoire et des cheveux, mais des cheveux gaufrés. Mais on n'a plus le droit de traiter les personnages féminins de cette manière-là, qui évidemment tombe amoureuse de ce type qui est d'une laideur sans nom. Même une aveugle arriverait à fuir. Mais évidemment, comme il est pété, d'études et qu'il en a plein les culottes de je ne sais pas quoi, mais surtout de billets, elle y va. C'est horrible, horrible, horrible ce film.
Ouais, mais fais gaffe parce que là, tu es en train de donner presque aux gens envie de le voir.
Ils vont rester un quart d'heure, hein, mettez-vous sur le bord.
Moi, je le trouve horrible aussi. Le film n'est pas pour les mêmes raisons que Xavier, parce que paradoxalement, moi, j'y vois au contraire. J'ai l'impression d'un film qui se tire sans arrêt une balle dans le pied, parce qu'il essaie de nous dire sans arrêt, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas une histoire d'enrichissement et d'argent. Moi, j'en entends comme ça.
Oh, non, ça, c'est clair.
Mais il dit.
Le dernier plan?
Non, mais attends, il dit sans arrêt, il fait dire à son personnage, moi c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'or et c'est pas la même chose. Et il lui fait répéter, c'est le rêve qui m'intéresse, c'est la filiation qui l'intéresse, c'est le Graal qui l'intéresse, enfin, pour un peu.
T'as toute une scène où il reçoit l'argent des donateurs, où on nous compte centime par centime de dollars, la somme qui est amassée.
Et oui, mais pourtant le film cesse de nous faire croire qu'il y a une dimension métaphorique dans ce film-là, un peu à la James Gray si tu veux. C'est l'aventure.
On est d'accord, on essaie de nous faire croire ça.
C'est ce que je te dis, c'est pour ça que je dis qu'il se tire une balle dans le pied, parce que d'un côté il dit ça, et de l'autre en effet il montre tout le contraire.
Un peu avant, c'est très mauvais quoi.
Donc c'est très mauvais, c'est très mauvais. Voilà. On s'en tient à ça.
Jean-Marc ?
Oui, c'est très mauvais, c'est un peu dégueulasse. Il y a un truc très étrange, c'est que le film fait l'apologie de la moyenne crapulerie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les crapules stigmatisées comme vraiment très très méchants, qui sont les financiers, Wall Street, les actionnaires. Mais par contre, la crapule débrouillarde et débonnaire qu'incarne Matthew McConaughey, c'est un visage sympathique de la crapulerie, et le film est très très conçu moralement.
C'est assez préélectoral, finalement.
Voilà, extrêmement antipathique et peut-être contemporain.
Mais c'est Trump.
Et puis par ailleurs,
regardez-le, il est très bien.
Pire, c'est que Matthew McConaughey est devenu irregardable.
Bon, allez, qui va défendre Gold dans le public, le film de Stéphane Gagan? Non?
Allez-y, sentez-vous libre.
Tant pis. On va avancer dans la soirée avec Sous le même toit. Je vous rappelle qu'on est dans une période qui précède le Festival de Cannes. Voilà. Et donc, Sous le même toit, la 6e comédie de l'ex nul, l'ex est gentil, Dominique Farrugia, avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, dans les rôles d'Yvan, agent de footballeur débutant, Delphine, qui est infirmière, un couple qui, après avoir lu un article dans l'Obs, décide de vivre à nouveau sous le même toit. Précision, évidemment, Yvan possède 20% de la maison. Donc, il habite 20% de la maison. C'est pas un film, évidemment, c'est une suite de petits gags télévisés, assez pipi-caca, il faut dire la vérité, qui se voudrait une version, comment dire, pseudo-comique de L'économie du couple, qui était un film formidable il y a un an Joachim Lafosse. Enfin, moi, c'est à ça que j'ai pensé, peut-être que c'est pas son intention. Jean-Marc ?
Je trouvais pas formidable le film de Joachim Lafosse. Effectivement, c'est très proche et c'est pas formidable non plus. Mais ça serait la version, disons, un peu plus feel good et comédie du film, mais je pense que le sujet n'est pas forcément passionnant et que personne n'arrive vraiment à traiter la violence économique liée à ce sujet. Je trouve que Joachim Lafosse
le sujet, il le montrait,
sorte d'aigreur que je trouvais assez petite. Et là, au contraire, le film est sous-tendu par une attraction qui ne cesse d'être présente entre les deux personnages, qui fait qu'au fond, c'est plus une comédie de remariage que vraiment le drame de la cohabitation quand on ne s'aime plus. On sent qu'au fond, ils ne vont pas durablement rester séparés, même si le film reste en suspens très très longtemps. L'idée, c'est quand même à quel moment ils vont finalement s'avouer qu'ils s'aiment encore. On a l'impression que c'est écrit uniquement par des algorithmes. C'est-à-dire que c'est vraiment une compilation de situations, de gags déjà vus ailleurs dans des films qui ont marché, qui a aucun moment une patte personnelle. Alors, ça tient vaguement sur le charme des acteurs, notamment de Louise Bourgoin, que je trouve délicieuse, qui est un peu trop jeune pour le rôle. On a du mal à croire qu'elle était à la fac, comme si dans le scénario, avec Gilles Lelouch, alors qu'il y a quand même une dizaine d'années qui les séparent. Je trouve que c'est vraiment pas grand-chose.
Pierrot ?
Je vais pas défendre Joachim Lafosse, parce que ça sera une autre émission.
Mais moi, je pense que c'est un film
très cruel, en plus. Il arrivait sur l'économie du couple, c'est-à-dire un couple qui partageait, et il y avait 50% ou 30%. 30%.
C'était pas les mêmes pourcentages qu'ici.
Voilà, c'est pas le même pourcentage, mais c'était pour moi un film très très cruel et très 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 beau sur les. Là, c'est, mais là aussi, pardon de me répéter, mais c'est, on aime tous Dominique Farrugia, mais c'est vraiment ni fait ni affaire. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme banalité de faussement adulte, on les giflerait volontiers.
Non.
Mais si,
non, Pierre.
Oui,
non,
c'est
non,
vrai
non,
que les coups
non,
sont
non,
interdits, non, mais non. Alors de loin, comme ça, on ferait mine quand même, parce qu'ils sont insupportables. Il n'y a pas un plan, c'est pas un clip. Mais il n'y a pas un plan qui fait plus de 5 secondes.
Ce que j'appelle une succession de gags.
Non, mais c'est comme ça, des chant contre chant pour que ça soit rythmé, pour que la réplique soi-disant drôle sorte. Et alors, même Louise Bourgoin, je suis désolé, qui est vraiment en effet une actrice pleine de charme, elle est totalement éteinte ici, il n'y a rien. Non, mais c'est vraiment très, très, très mauvais.
Xavier ?
Alors, il y a une situation de départ, on a tous effectivement repéré que ça ressemblait à l'économie du couple, mais il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce que Farrugia a envie de nous raconter avec cette histoire-là. Il a deux acteurs, une situation, c'est vraiment la comédie comme dans les années 80 qu'on produisait sur deux têtes d'affiche, qui était à peine écrite, c'est d'un paresseux inouï. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a posé sa situation, qu'il tarde à mettre en place. Oui, on a aussi la pauvreté de Gilles Lelouch qui rame, qui tape les copains, qui se fait jeter par tout le monde. On a bien compris que le type n'était pas aussi sympathique qu'il en avait l'air de prime abord. On arrive au bout d'une demi-heure, il reste à peine 40 minutes, hein, le film est d'une brièveté.
1h30.
Sans nom. 1h20 avec vraiment le générique poussé jusqu'au bout.
Non.
Et c'est... Une fois qu'on est arrivé enfin à la situation qu'on connaît tous, puisqu'elle est dans la bande-annonce, il ne se passe plus rien. Espèce de cohabitation bétassonne, potage, de provocation mutuelle. La fin est bâclée, mais j'ai rarement vu ça. Ils cherchent même pas à l'écrire. On est à 3 minutes de générique. Les enfants, vous allez être gentils, vous allez me sortir 3 répliques qui vont vous réconcilier. Le tout, en plus, pour imaginer à quel point c'est paresseux, est raconté en flashback depuis un mariage qui pourrait être éventuellement le mariage de nos deux tourtereaux enfin réconciliés, où on a Marianne Chazelle qui tire sur un pétard.
Ah, elle est mauvaise. Oh
bah, je trouve des mauvaises. T'as pas attendu ce film-là pour le découvrir,
non,
Pierre, quand même. Candide,
ouais.
Et ça ne sert à rien.
On n'aimerait pas être le pétard. Hein.
Ah non, ben ça, de toute façon, ça, être pendu aux lèvres de Marianne Chazelle, vu l'état. Non, j'ai pas dit ça. Mais et en plus, si ils sont en train de nous raconter ce qu'on vient de voir. Alors déjà, au premier degré, ça n'a aucun intérêt. En plus, ils le racontent à nouveau, ça n'a toujours aucun intérêt. Et on se dit que franchement, vrai, pour atteindre la durée légale du film, ils ont rajouté des séquences, ils ont été cherchés dans des vieux gags qu'ils n'avaient pas utilisés précédemment. Enfin, c'est vraiment, en plus, je trouve... C'est presque insultant pour le spectateur qui va payer 10 euros et qui va se taper une espèce de florilège de trucs.
Je suis pas sûr non plus qu'il va y courir. Hein.
De gars qui sont bons pour la retraite.
Ça marche très bien, dire le film. Sophie. Hein, parce qu'il commence, je l'ai vu en salle hier et la salle est toute petite et très...
Les chiffres ne sont pas très bons.
Clairsemé, oui.
Oui, bah, je suis d'accord avec vous. Hein. On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire, à la vérité. Quoi, hein. Effectivement, pourquoi être allé chercher cette situation
qui marche,
Non, mais ça a déjà été fait, tu vois. À la limite, papa-maman, c'était un peu.
Ça marchera à la télé, je te rassure.
Voilà.
Hein.
Oui, c'est mieux, papa ou maman.
C'est vachement bien. Papa et maman à côté, c'est vachement bien. Mais je veux dire, ça a été fait très bien en comédie. Ça a été fait formidablement, en effet, vous l'avez dit, avec la fosse. Il n'y invente rien. En effet, les gamins, j'ai l'impression d'avoir entendu 10 fois les gamins qui aux parents, comportez-vous en adulte,
oui,
vous n'êtes pas les adultes, c'est nous les adultes. On l'a vu dans des tas de comédies. Donc, ils n'inventent rien à partir de là. Moi, je trouve quand même qu'il y a une chose qui est bien, c'est quand même Louise Bourgoin. Moi, je trouve qu'elle c'est vraiment un personnage très énigmatique, d'abord, dans le film. Et je trouve qu'elle, elle est formidable. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'assez étonnant.
Elle n'est pas énigmatique dans le film, non.
On ne sait pas très bien où elle veut en venir, en fait. Parce que finalement, au début... On ne sait pas très bien pourquoi elle vire son mec, puisque finalement, elle lui demande de faire ce qu'elle... il fait ce qu'elle lui a demandé de faire.
Bah, elle en a marre.
Ils en a marre, ils s'aiment plus, complètement.
Eh ben non, justement, parce qu'en fait,
Sophie a raison,
non,
elle a mis au dé...
Ils ont voulu faire un couple libre et ouvert.
Vous êtes passé à côté du film.
Bon, ah bah alors,
c'est
complètement.
C'est pas du tout ce que
j'en conviens.
Et ça, c'est un peu l'artifice du scénario.
Oui, mais absolument.
Il veut filmer une comédie romantique, en fait.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, il ne reconclut jamais, sauf inconsciemment, quand ils sont à moitié endormis. Bon, donc tout ça est un peu bizarre, parce qu'on sait pas où il veut aller, à la vérité. C'est pour ça que je dis qu'elle est énigmatique, c'est qu'on sait pas très bien où elle veut nous emmener. Et finalement, on a l'impression que c'est 80% et 20%, c'est la vision qu'a Farrugia du couple. Hein. C'est la femme, elle est phallique, déterminée, commandant en chef, 80% du couple. Et puis les hommes sont des petits garçons, 20%. Et on a vraiment l'impression que c'est sa vision à lui du couple. Bon voilà, mais j'ai essayé de trouver quand même des...
Toi au masque, hein, c'est à peu près ça, hein, c'est les pourcentages. Bon, sous le même toit de Dominique Farrugia, vous écoutez bien Le Masque et la Plume, vous êtes bien sur France Inter, et nous rendons compte des films de la quinzaine. trois mois après Born to be Blue, qui est un film intéressant, je trouve, de Robert Budreau sur Chet Baker, avec un Ethan Hawke qui était bien. Ben voici un nouveau biopic jazzy, c'est Django, le premier film d'Étienne Comard, avec Reda Kateb dans le rôle-titre, mais aussi Cécile de France, Beata Paglia. La période choisie par Comard, il faut le dire quand même, c'est l'occupation. En 43, Django Reinhardt, qui triomphe aux Folies Bergères, refuse la proposition que lui font les nazis d'aller jouer à Berlin. À l'époque, il y en a d'autres qui acceptaient d'aller là-bas, musiciens, écrivains. Bref, pendant que les Tziganes sont pourchassés, il choisit d'aller se réfugier en Suisse et puis il est arrêté à la frontière. Il revient à Paris. Film un poil longuet, deux heures, qui vaut pour l'interprétation de Reda Kateb, je trouve. Mais le reste, je reste très sceptique. Qu'en pensez-vous, Sophie ?
Oui, c'est curieux, parce qu'il y avait beaucoup de choses pour que le film marche et soit réussi, et je trouve qu'il est raté. Il manque de souffle.
C'est bien ce que je disais, on écoute le masque.
Il manque de grâce, il manque d'inspiration, il n'a pas d'âme, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a des atouts incontestables, en effet, tu l'as dit.
À commencer par Reda Kateb.
Reda Kateb, qui est vraiment un acteur formidable et qui, je trouve, incarne vraiment bien le personnage. Le personnage lui-même qui est un personnage fort, la façon qu'a été M. Comard d'aller le chercher, ce personnage, je trouve qu'elle est vachement bien, c'est-à-dire de tirer ce fil de ce type à qui c'est pas sa guerre et puis ça va devenir sa guerre. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. En plus, il le montre avec beaucoup d'insouciance au début, avec sa façon de se soucier de sa moustache, de son petit singe, des imitations de Clark Gable. C'est par le petit côté de la lorgnette, il nous le montre.
Et puis comme
aussi.
Tu dis, on sent qu'il n'est pas concerné au début.
Il est pas. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui dont c'est pas la guerre et qui va prendre conscience que finalement, oui, c'est sa guerre. Donc c'est plutôt un bon fil ça à tirer. Il y a des personnages qui sont authentiques, qui sont assez forts, sa femme, sa mère. La musique, surtout, qu'on entend beaucoup. Il fait en sorte quand même qu'elle soit un personnage principal de son. Et pourtant, ça ne fonctionne jamais. Il n'y a aucune émotion, il n'y a pas de souffle. Et par moments, on fait un peu le deuil du film, ça aurait pu être, quand on voit des scènes assez belles, où par exemple, il cherche à s'ensevelir sous la neige à un moment donné. Il y a des choses comme ça, on se dit, tiens, ça aurait pu être beau, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Mais ça ne fonctionne pas. Un film, c'est une alchimie. Parfois, ça ne prend pas. Là, ça ne prend pas.
Pourtant, quel personnage, Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie. La première séquence, ça on peut le dire, on pourrait raconter la première séquence. Voilà. Fait très peur, qui est quand même malheureusement une chasse à l'extermination.
Tu peux la raconter parce qu'effectivement, elle est très claire.
Elle est très claire, mais elle n'est pas fine. Et juste après.
Mais raconte-la, parce que sinon.
C'est un camp de Tziganes qui est exterminé par un ennemi qui reste invisible. Est-ce que ce sont des soldats allemands ? Est-ce que ce sont des miliciens français ? Enfin, en tout cas, les pauvres. Effectivement, sont victimes, comme d'autres entre guillemets communautés, de l'extermination qui a lieu à cette époque-là en France. Bon, c'est bateau, mais au moins ça mérite.
Je te rappelle que ça n'était pas la France.
Voilà, ça n'était pas la France, c'est vrai. Il faut que je m'habitue à parler marine. Et après, je suis comme Sophie, je me dis, chouette, c'est un vrai sujet. C'est quoi la prise de conscience d'un artiste ? Est-ce qu'il a nécessité à prendre conscience ? C'est vrai que Django n'est pas montré sous son meilleur jour. Il n'a en gros pas grand-chose à foutre de ce qui est en train d'arriver aux Tziganes et à ses frères. Il colporte la musique, il en vit très bien. Les repas qui se terminent très tard la nuit avec du pâté, avec du saucisson. Et ça, c'est plutôt bien montré. C'est-à-dire que c'est des véritables banquets, il convie les gens. On essaye de lui dire, tu sais, autour de toi, il se passe des trucs. Non, lui, il est ravi. Le summum de sa résistance, entre guillemets, parce que je crois que le mot ne lui vient même pas à l'esprit, c'est qu'il y a des panneaux partout dans les salles de concert où il se produit. On ne s'élève pas, on ne danse pas, on n'applaudit pas. Et évidemment, grâce à la musique de Django, au bout de 5 minutes, tout le monde est debout, il tape dans ses mains. Bon, il le fait 2 fois, il le fait 3 fois, comme il y a un moment où il faut un peu s'arrêter. Et puis, malheureusement, Cécile de France arrive. On n'a pas osé lui dire que ce n'est pas une glorieuse bastarde. Donc, elle se la joue une glorieuse bastarde, c'est-à-dire vamp, moitié proche des nazis, moitié résistante.
On lui demande d'être comme ça aussi.
Voilà. Avec une robe qui est juste.
Oui, c'est pas elle, quand même. C'est le rôle. Hein.
Non, mais c'est le rôle. Mais malheureusement, là, on se dit, flûte, on n'est plus tout à fait dans l'acuité ou l'aspérité politique dans lequel le film se situait. Puis la fin est un peu ridicule. Enfin, je veux dire, dès que ça va en Suisse, là, malheureusement, c'est très, très, très laborieux et un peu embarrassant sur certaines séquences. Je ne raconterai pas celle de l'évasion, mais.
Jean-Marc.
Oui, c'est un film qui est vraiment très très abîmé par tout ce qui est réalisation, direction artistique, où on se dit que le scénario est plutôt bien conduit, riche, que Comard est vraiment quelqu'un qui s'est déjà illustré dans l'écriture du scénario, et la mise en scène est d'une fadeur extrêmement terne tout le temps. Quand on pense à un film comme Planétarium de Rebecca Zlotowski, qui réinventait complètement en termes de direction artistique ce à quoi pouvait ressembler un film d'occupation allemande, là vraiment on est dans un vieux téléfilm d'il y a 30 ans, où tout semble un peu faux, un peu maladroit, donc c'est extrêmement pénible parce que c'est riche de promesses qui sont totalement affadies par cet abat-jour qu'est la forme du film.
Pierre.
Bah, vous avez tout dit. Non, mais Django n'est pas concerné par ce qui se passe, mais les spectateurs non plus. C'est-à-dire que, les concerts. Moi, j'ai jamais vu des concerts aussi. Enfin, je veux dire qu'on devrait, en effet, tous, même dans la salle, se lever et tout le monde est assis. On est effaré tellement c'est froid, tellement c'est sans âme, tellement c'est mal fichu. Ah,
tu sauves même pas Reza Kateb?
Si, il est très bien, mais qu'est-ce que tu...
Il fait rien.
À la limite...
Moi, j'essaie de dire un truc positif.
Non, mais il est formidable. Cécile de France, sortie d'Inglorious Bastards, au moins, il se passe quelque chose, parce que c'est un personnage qui est, en effet... collaboratrice, et en même temps elle est célèbre. Non mais il se passe quelque chose. Le reste, il ne se passe rien. C'est quand même totalement mauvais. C'est la troisième fois de la soirée que je le dis, mais je suis navré, mais c'est comme...
Et ça n'est pas fini.
Et ce n'est pas fini.
C'est pas fini, oh. Hein, c'est sûr.
Petit effet de bande-annonce.
Django d'Étienne Comard. Non, personne ne veut réagir sur ce film. Bon, un mot d'Aurore, le film de Blandine Lenoir. Bah, je fais mon métier, je vous annonce les films qui sortent, hein. Avec Agnès Jaoui, Thibaut de Montalembert. J'ai rien compris à ce film d'ailleurs. Pascal Arbillot. Aurore, c'est donc Agnès Jaoui. Bon, une femme divorcée qui vient de perdre son emploi, qui va être grand-mère. Ça fait beaucoup, c'est vrai, peut-être, mais qui retrouve par hasard son amour de jeunesse. Bon, qui tient la forme grâce à ses copines. Bon, qui a des problèmes. Disons liés à la ménopause, hein, c'est ça qui
revient. Elle a des bouffées de chaleur.
C'est
ça, on
mieux.
Nous le dit au moins 20 fois.
Oui, ça, oui, ça. Si on s'en est pas aperçu. Mais je vois pas. Je vois bon, peut-être si sur le débat de société sur la ménopause, mais je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est en sens que je ne
comprends
pas.
Pour ou contre la ménopause,
oui.
Ça c'est un vrai sujet.
Il y a un côté téléphone sonne sur la ménopause, quoi. Tu vois, t'as envie de prendre un appel, mais je vois. Expliquez-moi l'intérêt de ce film, Sophie.
Je pense qu'au-delà de la ménopause, elle voulait essayer de montrer que des femmes au-delà de 50 ans qui se sentent un peu mises sur la touche par la société et le regard des autres, et qui n'étaient assez peu représentées au cinéma, c'était peut-être bien de les représenter au cinéma. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, je ne suis pas sûre que les femmes de plus de 50 ans peuvent lui être reconnaissantes d'avoir fait ce film, parce qu'en effet, elle a une façon de parler d'elle qui, je trouve, elle est jeune, hein, enfin, elle est beaucoup plus jeune, Blandine Lenoir, et elle en parle tellement mal que, en effet, c'est pas un service qu'elle leur rend, finalement. Le scénario il est mauvais, mais tout est mauvais dans le film, c'est-à-dire que le scénario c'est mal joué. Non mais c'est vrai, c'est joué,
gentil,
c'est affreusement mal joué, enfin c'est d'une grossièreté, c'est joué au char, enfin c'est des chars d'assaut, c'est tout est extérieur,
même Thibault de Montalembert qu'on a vu assez fin parfois.
Alors je trouve que les hommes, au contraire, bizarrement, autant les femmes sont toutes mauvaises, vraiment, Agnès Jaoui, Pascal Arbillot, même les petites, elles sont pas bonnes, autant je trouve que Patrick Rebaud, l'ex-mari, qui est une toute petite scène, il est formidable, d'ailleurs, c'est un acteur qui est toujours formidable.
Il n'a pas de bouffée de chaleur, lui, d'ailleurs.
Peu importe, mais Samir Geshmi aussi est très, très bien. Et d'ailleurs, la scène où il joue est une scène qui est bien, parce qu'elle est pertinente, et tout à coup, elle... Mais c'est-à-dire qu'elle a voulu faire un film, en effet, où c'est une recette, ce film. Alors, on construit des fausses scènes censées faire rire, on montre que les femmes de 50 ans peuvent être intrépides et s'adresser à quelqu'un dans la rue, et c'est censé faire rire. Ensuite, on met un peu de... Une femme qui danse toute seule, comme ça, pour mettre un peu de la séquence on se lâche. Et tout est comme ça, tellement dirigé, mais de manière artificielle et extérieure, qu'il ne se passe rien, en fait, dans le film. Voilà, parce que rien n'est naturel, rien n'est juste.
C'est ce que je voulais dire, oui, c'est ça. C'est que...
Mais ce n'est pas le sujet qui ne va pas, c'est que rien n'est juste. Voilà, et je sais bien que la comédie, c'est censé être stylisé, mais un peu de justesse, quand même, un minimum.
Pierre ?
Bon, moi, je ne déteste pas ça. Moi, je ne suis pas une femme, je n'ai pas de bouffée de chaleur.
Oh, bon, mais... C'est pas ce qu'on voit pour l'instant.
Le film est quand même.
C'est pas ce qu'on nous a dit, Pierre.
Je trouve.
Par exemple, certains soirs.
Agnès Jaoui, je trouve, porte le film. Elle est justement ce qu'elle a voulu faire. Mais je crois pas que ce soit un film très, très, très grand qui veut être grand.
Mais la scène à Pôle emploi. La scène à Pôle emploi où elle bégait sans arrêt, là.
Non, mais
c'est pas Pierre. T'imagines ce qu'aurait fait Mankiewicz avec la ménopause?
Je sais pas si ça l'aurait, je sais pas sûr.
Avec Bette Davis,
je ne suis pas sûr que ça l'aurait vraiment intéressé, mais admettons. Non, mais le film est exactement comme tu l'as raconté. C'est-à-dire, c'est l'histoire pour dire, eh ben voilà, à 50 ans, on n'est pas foutu, on peut retrouver un ami d'enfance, on peut rêver à quelque chose, et je trouve que c'est fait. Alors, le film est court, je pense que pendant 45 minutes, il il tient très bien, enfin, très bien, il tient bien la route avec des personnages qui sont assez joués. Après, ça dégouline un peu. Mais je trouve qu'Agnès Jaoui s'en sort vraiment très 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 bien. Mais si elle fait exactement ce qu'on attend, ce que les gens attendent d'elle. C'est un personnage sympathique. C'est un personnage sympatoche et qui essaie de montrer que la vie n'est pas finie.
Quand tu commences à utiliser le mot sympatoche, c'est en général mauvais signe.
Mais non, c'est pas si.
C'est quand même au champ d'assaut, Pierre.
Enfin, Pierre, tu ne pousses pas les gens à aller voir le film, quand même.
Non, mais ils peuvent le voir. Par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est peut-être celui que je préfère, voilà.
Jean-Marc.
C'est vrai qu'on avait vu il y a un an un film sur un sujet assez proche qui était L'avenir de Mian San Love et qui était l'absolu contraire, qui était un film d'une dureté, d'une cruauté, qui ne laissait aucune illusion. Là, c'est tout le contraire. C'est vraiment un feel-good movie. C'est un film. Tu demandais à quoi sert le film. Le film sert, enfin, vise une sorte de soulagement. C'est-à-dire qu'il s'adresse clairement
à des
spectatrices concernées par la problématique du film en disant tout va bien se passer. On peut retomber amoureuse à plus de 50 ans. C'est vraiment un feel-good movie. Et dans ce cadre-là, moi, je serais moins sévère que Sophie. Je trouve le film pas si mal foutu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment pas un film dévoré par son ambition formelle. La mise en scène est vraiment.
J'adore la formule.
Merci Jean-Marc.
Mais c'est justement dans ce cadre-là, ultra formaté, où la mise en scène est du pilotage automatique, je trouve que c'est assez habilement écrit, assez habilement joué. Moi, je trouve que les filles sont super. J'adore Lou, le roi, le collinet, qu'on n'avait pas vu depuis le Dépléchin il y a 2 ans. J'étais très content de la revoir. Je trouve le film pas désagréable ni antipathique.
Xavier.
Moi, je me range complètement du côté de Sophie. Je trouve le film sans aucun intérêt, sans aucun scénario. Il y a un sujet, elle est effectivement victime de la ménopause. Ah, ça construit pas un personnage, visiblement. Pour Blandine Lenoir, c'est suffisant parce qu'on ne saura rien d'autre de ce personnage. Alors le scénario, très gentiment, c'est Chine à lui enlever toutes les branches sur lesquelles elle était assise, la famille puisque les filles s'en vont, le métier puisque le restaurant où elle travaillait a été racheté par un odieux connard absolu qu'elle
finira par
qui la rebaptise Samantha.
Bah, ça arrive.
Ça dure quand même 20 minutes avant qu'elle lui envoie son tablier dans la gueule en lui disant va te faire foutre, ce qui est tout à fait légitime. Elle se retrouve donc seule, sans boulot, sans mec, au pôle emploi. Il y a un moment effectivement, Sophie a raison, puisqu'il y a des graduations, donc comme c'est Madame Jaoui qui interprète le rôle principal, ces bouffées de chaleur sont nobles, elles sont belles. Mais comme il en faut une un peu ridicule, on va confier ça à une pauvre fille de Pôle emploi qui ne demandait rien, qui est prise, elle, mais vraiment d'une très 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 grosse bouffée de chaleur. Bon, alors elle met le ventilo,
c'est une scène drôle.
C'est une scène qui complète, effectivement, ce qu'on ne peut pas demander à Madame Jaoui. Et alors pour une fois,
c'est des propos de mecs.
Alors justement, pour une fois, c'est pas des propos de mecs. J'ai jamais vu des personnages de mecs aussi cons au cinéma. Et c'est un vrai problème parce que ça déséquilibre complètement.
Ça m'a pas dérangé.
Chaque fois qu'elles vont dans la rue, quelle qu'elle soit, quel que soit leur âge, il y a un mec derrière pour dire, hey, tu baisses. T'as un beau cul avec ton truc en cuir. Enfin, j'ai l'air des trucs, mais d'un autre âge, d'une rivalité passée, passéiste, mais qui détruisent absolument tous les enjeux du film sur le féminisme, sur l'égalité et tout ça. C'est un film qui commence soi-disant en 2017 et qui termine en quoi? En 1932. 32, 31, 30. Il rétropédale tellement sur sa vision du monde et de la société et de la femme qu'à la fin, mais c'est putride, quoi. Et c'est bête. Il y a une vision des femmes et des hommes qui est quand même hors d'âge, quoi.
Vous continuez à écouter Le Masque et la Plume.
Et la photo, qui a fait la photo?
Oh, qui a fait la photo?
Non, mais retirez-lui son chèque,
mais
c'est pas possible!
Mais c'est pas les acteurs qui ont joué dedans,
mais c'est pas possible, j'ai jamais vu un éclairage aussi moche. Même chez Moki, c'est mieux.
J'imagine les coproducteurs à qui on a apporté, cela dit, le scénario, c'est-à-dire avant le tournage, on leur a apporté ça, mais ils ont dû quand même se demander, il faut tourner ce film par là. Enfin, je comprends pas très bien comment c'est devenu.
Oui,
voilà.
Il y a pire.
Il y a toujours pire.
Il y a toujours pire.
Il y a
Daniel Thompson. Il y a du monde. Oui, ça.
Attends, on a déjà assez d'ennemis avec les films qui sortent.
C'est
dur à chercher. Ceux qui n'ont pas fait de film, ça va. Aurore, Blandine Lenoir. Non, personne, toujours pas. Ils sont tétanisés ce soir.
Heureusement qu'on va pas à Cannes, parce que tous ces gens là pour y être. Ah oui, Agnès Jaoui, elle y est en plus.
Elle fait partie du jury.
Attends.
Comment je vais me faire désinguer, moi?
Je vais avoir du mal à avoir une interview, je pense.
Je sens que tu vas avoir des bouffées de chaleur, toi,
oui,
à Cannes.
Je suis très chaud, là.
À mon âge, je me cache encore pour fumer le premier film de l'actrice franco-algérienne Rayana. Un film tiré du spectacle qui a failli, il faut le rappeler quand même, lui coûter la vie. C'était en 2010. Rayana se rendait à la Maison des Métallos, c'est dans le 11e à Paris, où donc se donnait sa pièce, que j'avais vue. Je ne sais pas si vous l'aviez vue les uns et les autres, non, aucun de vous. Et elle a été agressée par deux illuminés de Dieu, dit-elle, qui l'ont aspergée d'essence pour la brûler, exactement comme on brûlait les sorcières au Moyen-Âge. Heureusement, ses cheveux étaient mouillés, ils n'ont pas pris feu, mais le film raconte exactement ce que racontait la pièce. On est à Alger au début des années 90, et après la victoire du FIS, le Front islamique du salut, je le rappelle, une jeune fille de 16 ans, qui est sur le point d'accoucher, débarque dans un hammam où la patronne l'abrite dans une chambre à l'étage. Et en bas, les femmes, alors qu'ils sont vraiment de toutes conditions, de toutes générations, racontent leur vie. Alors elles se souviennent essentiellement de leur nuit de noces, pas facile, de leur désir le plus souvent inassouvi. Elles racontent aussi les sévices. Il y a un moment terrible d'ailleurs où l'une d'entre elles raconte les brûlures à l'acide qu'elle a reçues des intégristes. Voilà, il y a du massage, il y a des épilations et tout se dit, le meilleur comme le pire, jusqu'au moment, ça c'est la fin du film, mais on va pas aller jusqu'à raconter l'ultime plan, où les barbus menacent d'envahir le hammam. Un film qui est produit par Michel Regavras, qui a été tourné dans un hammam, mais non pas à Alger, mais en Salonique, avec des comédiennes dont certaines sont formidables. Ayam Abbas, Fadila Belkebla, Nassima Benchichou, Sarah Lessac et Biouna, que là on connaît davantage. Jean-Marc.
Je ne l'ai pas vu.
T'as pas vu?
Et non, j'ai pas eu le temps.
Xavier.
Moi, j'ai eu un petit peu peur au début parce que c'est le genre de dispositif qu'on a quand même régulièrement vu au cinéma. On se souvient de Caramel, par exemple, ou de Dégradé. C'est-à-dire ces lieux, généralement, effectivement, plutôt Moyen-Orient, où se réunissent les femmes. Et ça va être le moment, effectivement, de montrer à la fois la diversité de la société féminine, leur acte de résistance, le sort qui leur est réservé. Et généralement, ça aboutit à des fictions qui sont quand même un peu manichéennes, où chacune est dans son camp et où le mal est extériorisé. Là, ce qui est intéressant, une fois qu'elle a posé les personnages, c'est qu'effectivement, le mal est à l'extérieur, le mal au sens masculin, et puis mais il est aussi à l'intérieur. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'elle a mis des personnages, elle affronte et elle confronte des personnages qui ont idéologiquement, politiquement, fait des choix contraires. On peut être...
Il y en a une, surtout.
Oui, mais même, il y a le mariage forcé, il y a celle qui rêve d'être indépendante. Enfin, voilà. Elles ont toutes quand même une position, ou en tout cas, elles ont leur contraire face à elles. Ce qui fait qu'au début, on se dit, bon, ça va être un tout petit peu quand même l'une contre l'autre. Et en fait, au bout d'un moment, ça crée effectivement une tension, quelque chose d'un peu anxiogène, d'un peu étrange. Ça nuance énormément l'idée toute faite de la femme qui, alors bien sûr qu'il faut les défendre, que le sort de la femme est indispensable à toute forme de démocratie. Mais il y a aussi une complexité. C'est pas aussi naïf que ça. C'est pas aussi lénifiant que cela. Elle a un sens de l'espace qui est extrêmement intéressant. Elle utilise l'obscurité à un moment, ça donne une scène. Et puis, il y a une jeune fille qui est là-haut, qui va accoucher, qui a un enfant, qui est enceinte, qui est vraiment dans les dernières contractions, qu'elle a recueillies, que son frère veut tuer. Voilà. Et même à l'intérieur de ça, elle le cache. C'est-à-dire que même la solidarité féminine, le personnage de Yamada ne le fait pas jouer à ce moment-là. Elle préfère la dissimuler. Elle n'a même pas confiance en ses consoeurs. Et subitement, cette rivalité, cette tension à l'intérieur du groupe évite justement tout ce qu'on pouvait redouter au début, de gentillesse, de manichéisme, de côté un petit peu comme ça, et donne lieu à quelque chose qui est vraiment intéressant et qui utilise l'espace de ce hammam. On sent que c'est une pièce de théâtre, mais elle a vraiment utilisé la circulation
des corps. Oui, mais on sent que c'est aussi c'est une pièce de théâtre, mais c'est aussi un gynécée dans le plus beau sens du terme, c'est-à-dire des femmes soudées entre elles, même quand elles sont d'idéologie opposée.
Voilà, absolument.
On sent un corps commun que je trouve, moi, très émouvant.
Et les corps sont filmés et de façon très intéressante.
Sophie.
Oui, moi, j'aime beaucoup le film parce qu'en effet, au début, je suis comme toi, Xavier, j'ai eu un petit peu peur. Ça va être un échantillon dans ce huis clos où chacune va y aller de sa souffrance, de sa douleur. Ça va être un film à la fois douloureux qui puis va vers le pathos, etc. Et chacune représentant quelque chose avec la brutalité de Ayam Abbas, en plus, qui traverse le hammam comme une guerrière. Et finalement, ces maladresses du début, je trouve qu'elles servent le film. Il y a une espèce de c'est quelque chose d'assez primaire. Ça reste assez brut de décoffrage. Ça reste en effet assez brutal. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'une chanson de geste, une épopée primale quand même. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Les corps racontent les personnages autant
absolument
que la psychologie.
Et il y a du coup, il n'y a plus pas du tout de didactisme, pas du tout de pathos, pas du tout de psychologisme. Et d'ailleurs, avec cette réalité noire qui est la décennie noire de l'Algérie, Dieu sait que c'est réaliste. Et pourtant, on va vers autre chose. C'est-à-dire que le film quitte le registre du réalisme et va vers le conte, va vers la féerie, va vers quelque chose.
Y compris dans l'image finale, qui est très
belle. Et ça, c'est quand même très fort d'avoir, d'être parti de là et d'aller vers...
Pierre ?
Moi, je suis moins enthousiaste. C'est-à-dire que tout ce que vous dites est vrai. Et tout ce qui est dit dans le film, je trouve ça absolument splendide. Non, mais vraiment, ce qui est dit, les personnages, la dénonciation...
Mais tu préfères Aurore ?
Non,
mais... Tu préfères la ménopause ?
Oui, alors, voilà. Alors, très bien, je préfère Aurore. Non, mais je rigole. Non, mais c'est simplement que...
T'as pas l'air.
C'est pas... Mais c'est pareil, il n'y a pas de mise en scène non plus. Non, il n'y a pas de mise en scène. Elle ne sait pas très bien quoi. C'est pas parce que il y a de l'espace qu'on sait l'utiliser. Joseph Losey avait fait son dernier film, c'était aussi...
Ah bah oui, Losey.
Et
ben, j'ai le droit quand même.
Mais non, mon plaisant, Pierre.
Non, mais c'était pas son meilleur film, mais au moins il avait le sens de l'espace. Tout ce qui est, encore une fois, le scénario, tout ce qui est dit, les personnages sont tous absolument magnifiques, sauf qu'il n'y a pas de réalisatrice derrière qui rende ça absolument cinématographique. Je suis désolé, le cinéma, c'est un art de la mise en scène aussi. Alors, ce qui est dit est formidable, ce qui est montré l'est beaucoup moins. Voilà.
À mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayana, que personnellement, je vous conseille d'aller voir. Et on termine rapidement avec Après la tempête, le nouveau film du japonais Hirokazu Koreeda, qui avait été étrangement mal reçu, ou je dirais un peu négligé, au Festival de Cannes l'an dernier. C'était dans Un certain regard. Un film qui se passe à Tokyo. Il y a un énième typhon qui menace de souffler sur la ville. Une mère et grand-mère rassemblent dans son appartement d'une HLM, d'ailleurs sa petite famille décomposée. Il y a le fils, qui est un écrivain raté devenu détective privé, et surtout parieur ruiné. Il y a la femme dont il est séparé, et puis leur garçon de 11 ans. Un film dont Koreeda dit qu'il est peut-être son plus personnel. Moi, j'ai pensé à du Tchekhov japonais, si ça peut exister. Dites-moi des bonnes raisons d'y aller, Xavier.
C'est une merveille absolue. J'étais comme toi, on m'avait dit que c'était un film mineur. Même à Cannes, du coup, je n'avais pas trouvé le temps d'y aller. Je l'ai vu à Paris, je crois qu'un des plus beaux Koreeda, c'est d'une précision. C'est la veine déjà qui était là dans un de ses films précédents, dont le titre m'échappe, cette espèce d'humour sur la famille.
Still Walking ?
Oui, voilà, Still Walking, qui est absolument magnifique. Walking. Il y a cet humour, la grand-mère, le personnage principal, est très perfide dans la manière dont elle a de caractériser son ex-mari qui a disparu. Ce fils qui lui fait les poches, c'est quand même très clair, quand il arrive dans l'appartement, il se met à fouiller partout, à manger les pommes de l'hôtel, à lui piquer de l'argent. Donc, c'est pas des personnages positifs, et c'est pourtant des personnages qu'il aime tendrement, Koreeda. Et il y a une justesse, il y a une manière de les regarder, il y a une mise en scène qui est absolument impressionnante, parce qu'on comprend sur des petits détails, mais vraiment trois fois rien, que la grand-mère vit dans 20 mètres carrés. C'est-à-dire que quand elle ouvre la porte du frigidaire, tout le monde est obligé de se pencher sur la table de la cuisine, parce que sinon on ne peut pas ouvrir le frigidaire. Donc il y a toute cette idée aussi d'une certaine société nippone, de gens qui n'ont pas gagné leur vie, qui sont pauvres, qui vivent comme ça dans des banlieues extérieures. Donc il grève sur une histoire qui est bouleversante d'une grand-mère qui essaie de réconcilier sa famille et qui n'y arrivera pas, mais ça je pense qu'on ne dit rien, on ne révèle rien en le disant. Aussi tout un regard sur la société japonaise d'aujourd'hui qui est très juste, qui n'est pas dogmatique et qui ressemble vraiment à du Koreeda.
Jean-Marc ?
Oui, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il y avait vraiment un devenir académique des films de Koreeda ces dernières années.
Oui.
Que c'était un peu trop enrubanné formellement. Il y avait trop de piano, trop de jolis cadres. Là, c'est beaucoup plus modeste formellement. Et en même temps, c'est extrêmement précis. Il y a une combinaison d'acidité et de douceur qui me semble idéale. C'est d'une précision dans la manière dont il traque comme ça les points d'amertume chez ses personnages, tout en les rendant extrêmement séduisants. C'est vraiment un très beau film.
Pierre. Je suis comme Jean-Marc. Depuis quelque temps, depuis Nobody Knows, et Still Walking, j'étais un peu déçu par ce qu'il faisait. Et là, je retrouve vraiment le cinéaste que j'aimais, qu'on aime tous. C'est magnifique. Les personnages sont tous dessinés. Ce type, en plus, ce joueur vaguement détective et écrivain, a un charme absolument. Ils ont tous du charme. Voilà.
Il raquette ses clients en plus.
Voilà.
Il est pas élégant,
voilà. Mais tout ça est à la fois acide et en même temps très tendre et charmant. C'est vraiment son plus beau film depuis très longtemps.
Oui, mais c'est très étrange qu'il soit encore une fois passé à côté de tout, y compris de la curiosité, je trouve, au Festival de Cannes, ce film.
Oui, mais j'aime beaucoup le film aussi. Moi, je ne trouve pas que ce soit son plus beau film. Moi, je préfère tel père, tel fils, mais je le trouve un chouïa filandreux peut-être au début, un tout petit peu, mais malgré tout merveilleux, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, c'est des personnages absolument merveilleux. Ce personnage, tu dis que c'est un écrivain raté, mais il dit à sa mère les grands talents fleurissent tard, et elle lui dit toi, t'as mis le temps ou un truc comme ça. Donc, en effet, il y a toujours. Elle est très facétieuse. Elle, c'est un personnage de vieille dame facétieux. Et j'aime beaucoup sa façon d'aller voir cette agence de détective qui lui permet, à travers le directeur de l'agence, de radiographier un peu l'époque, cette époque mesquine, dit-il. Et là, tout à coup, on est dans un film de Truffaut. Je trouve qu'il y a quelque chose de très truffaldien dans le film. Et puis, il revient sur ce personnage principal qui est un grand enfant, qui lui-même est un fils. Il a des problèmes avec son père qui est mort, mais on comprend vite qu'ils ne se sont pas bien entendus. tendu, puis il a son petit garçon qui le regarde comme un étranger, puis après on repart vers la grand-mère, et bon, tout ça est très beau, et c'est vraiment une pierre de plus dans cet édifice assez merveilleux qu'est la filmographie de Koreeda.
Après La Tempête, voyez, on n'a pas très bien commencé, on termine bien, La Tempête, le film qu'on vous conseille de Koreeda. Des conseils pour finir cette émission, on va commencer avec Sophie.
Alors un film formidable, une fable de circonstance qui s'appelle Glory, un film bulgare de Kristina Kroseva et Peter Vachanov, la difficulté d'être honnête, puisque c'est l'histoire d'un cantonnier, un pauvre cantonnier qui, marchant pour réparer sa voie ferrée, tombe sur un sac de billets de banque. Et voilà, et j'en dirai pas plus. Que fait-il avec ce sac de billets de banque? Bon, on peut dire juste que... Non, on le dit pas. Bon, parce qu'on va me reprocher d'avoir dit.
Ça donne très envie. Hein.
Voilà. Je trouve que le film est à la fois extrêmement drôle, extrêmement acide, caustique, et vraiment, il est vraiment de circonstances.
Le conseil de Xavier.
Eh bien, c'est Adieu Mandalay. C'est le premier film de Mehdi Zed distribué en France, parce que c'est son cinquième film, quatre fictions et un documentaire. Il est birman, et c'est pas parce qu'il est birman qu'on va le défendre, parce qu'effectivement, il est le seul cinéaste birman à ce jour, dans un pays où il n'y a pas une salle de cinéma. Il est basé à Taïwan, et ses fictions sont toujours en Thaïlande, puisque c'est le pays limitrophe, évidemment, où tout le monde émigre. L'immigration, traverser les frontières, qu'elles soient géographiques, éthiques, morales, c'est le grand sujet de Mehdi Zed. C'est toujours le même sujet, c'est des films à chaque fois différents. Là, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui ont émigré. Ils vont trouver des emplois en Thaïlande. Le garçon, lui, rêve de retourner en Birmanie avec un petit pécule. Elle voudrait avoir un visa et rester là. Et ça va être justement le délitement de leurs sentiments. C'est des plans séquences, c'est une manière de raconter les personnages, de traverser avec eux justement leurs frontières. C'est un immense cinéaste, vraiment. Il y en a quatre autres à découvrir, mais je suis ravi que celui-ci sorte enfin. Adieu Mandalay, Mehdi Zed.
Moi, j'ai deux conseils, je vais aller très vite. C'est Retour à Forbach, qui est un documentaire de Régis Sauder, qui est un peu comme Héribon avait écrit Un Retour à Reims. Là, c'est Un Retour à Forbach, une ville qu'il avait quittée sous le poids de la honte sociale, et il y revient. Et je trouve ça très, très fort. Et puis, une fiction, c'est Winning Doll, d'une Israélienne, Nizan Giladi, qui était le portrait, à mon avis, impossible à faire, et le film est réussi, d'une jeune femme qu'on dit différente, et qui rêve de l'amour, du grand amour et de l'homme idéal, avec une comédienne formidable, Moran Rosenblatt. Le conseil de Jean-Marc.
Une rétrospective à la Cinémathèque française à Paris, c'est l'intégrale de Jean Eustache, qui est le plus grand cinéaste, je pense, apparu dans l'immédiat après-coup de la Nouvelle Vague. C'est l'occasion de voir son film le plus célèbre, qui est La Maman et la Putain, qui n'est pas si facile à voir, parce qu'il n'a jamais été édité en DVD, et qui passe une fois tous les 20 ans à la télévision.
Jamais en DVD.
Jamais. Le fils ne va pas.
Donc le film n'existe pas en DVD. Mais outre La Maman et la Putain, il y a un film qui pour moi est plus grand encore, qui s'appelle Une sale histoire, avec Michael Lonsdale, et qui est un chef-d'œuvre absolu.
Le conseil de Pierre.
Alors deux films très rapidement qui sortent mercredi prochain. Le film de Chad Chenouga qui s'appelle De toutes mes forces. C'est l'histoire d'un adolescent dont la mère meurt et qui est dans un lycée un peu huppé et qui ne veut pas, qui est donc placé dans un foyer et qui ne veut pas qu'on sache, que ses copains sachent qu'il est dans un foyer. Et donc il y a une sorte de double jeu comme ça qui s'engage. C'est un film vraiment que je trouve très joli. Et alors moi je suis un fan de Terence Davis, qui est un réalisateur anglais qui a fait La Bible de Néon, qui a fait Distant Voice sur son enfance. Et il vient de faire un film sur Emily Dickinson, qui s'appelle Emily Dickinson et Quiet Passion. Il y a des mouvements de caméra. Je suis un fan absolu de ce cinéaste qui est pas toujours très reconnu et que je trouve absolument formidable.
Je te laisse ce choix.
Je le partage et le revendique.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam, ce soir au Charles Trenet à la technique, les indispensables Jean-Louis Deloncle, Lydwin Caron et Philippe Mercher. La réalisation était signée Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, ce sera le jeudi 11 mai à 20h au studio Sacha Guitry. Je vous attends pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre à la littérature. Attention, la semaine prochaine, le Masque laisse sa place à la soirée électorale. Je vous dis donc au dimanche d'après, le 14 mai, sur France Inter, évidemment.